Avec une autre actualité, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a fermement dénoncé un harcèlement économique par les États-Unis du géant des télécoms Huawei et prévenu que Pékin se battrait jusqu'au bout dans la guerre commerciale contre Washington. Le conflit s'est envenimé après la récente décision de l'administration Trump de placer Huawei sur liste noire au nom de la sécurité nationale, ce qui a poussé plusieurs entreprises comme Google à couper certains liens avec le fabricant chinois de smartphones. Bonjour Patrick Artus.
Bonjour.
Vous êtes professeur associé à l'École d'économie de Paris et vous êtes aussi chef économiste de Natexis. Vous publiez un ouvrage intitulé « Discipliner la finance » chez Odile Jacob. Votre réaction à cette guerre commerciale qui débute donc avec une histoire de téléphone portable?
Alors, il y a deux morceaux dans la guerre commerciale. Ça fait maintenant, depuis le mois de septembre, nous avons des droits de douane qui ont été mis sur toute une quantité de produits chinois importés aux États-Unis. On a un certain nombre aujourd'hui d'estimations des effets de cela, puisque ça fait 6 mois, et aucune étude ne dit que cette décision était favorable aux États-Unis. La raison étant que ce que les États-Unis importent de Chine, assez largement, ils ne le produisent pas eux-mêmes. Donc quand ils mettent des droits de douane, ils continuent à l'importer, simplement ils le payent plus cher. Donc ceci n'est pas favorable aux États-Unis. Et puis il y a l'affaire Huawei qui est d'une nature différente, puisque là on n'est pas dans un conflit commercial. On est dans un conflit pour la maîtrise technologique. Les Chinois veulent maintenant internationaliser leurs grands groupes technologiques. C'est le cas depuis longtemps de entreprises comme Alibaba, par exemple, qui est devenue mondiale. Huawei est dans ce processus d'internationalisation avec une avance technologique sur les réseaux de télécom, sur la 5G. Évidemment, les Américains voient arriver un très grand concurrent chinois qui pourrait prendre le marché mondial dans un certain nombre de métiers des télécoms. Et donc là, on a une réaction qui n'est pas une réaction de protectionnisme au sens bête. J'arrête les importations, qui est une réaction de panique, en gros, devant la réalisation de ce que dans certains domaines, les Chinois sont plus avancés que les Américains. Alors évidemment, ceci à court terme est compliqué pour Huawei. Mais on a l'exemple des sanctions sur la Russie. La réaction des Chinois va sans doute être la même que celle des Russes, qui est de dire, puisque nous sommes dans cet environnement, il faut que nous soyons totalement autonomes. Donc quand les Européens ont arrêté d'exporter des produits agricoles vers la Russie, les Russes ont redéveloppé une grande industrie de l'agroalimentaire qui maintenant bat les Européens dans tous les marchés mondiaux. Et les Chinois vont sans doute devenir autonomes sur tout ce qu'ils ont encore besoin d'acheter aux Américains, par exemple les microprocesseurs.
On va justement écouter Donald Trump justifier cette guerre commerciale, Patrick Artus.
Nous nous disputons un peu avec la Chine parce que nous avons été traités de façon très injuste pendant de nombreuses décennies. Cela aurait dû être réglé il y a longtemps. Cela ne l'est pas. Et nous allons le faire maintenant. Je pense que ça va bien se passer. Nous sommes dans une position très forte. Nous sommes la tirelire dont tout le monde aime profiter. Depuis de nombreuses années, nous perdons entre 300 et 500 milliards de dollars par année dans nos échanges commerciaux avec la Chine. On ne peut pas laisser ça continuer. La relation que j'ai avec le président Xi est extraordinaire, elle est vraiment très bonne. Mais il soutient la Chine et je soutiens les États-Unis. En fait, c'est très simple.
Donald Trump qui justifie donc ces sanctions. Patrick Artus, il a raison ou tort, Donald Trump ?
Alors, le problème, c'est qu'il n'est pas sur le bon dossier. Le déficit extérieur des États-Unis vis-à-vis de la Chine, il est dû, quand on regarde les chiffres, pas à un niveau anormalement élevé des importations américaines depuis la Chine, mais à un niveau anormalement bas des exportations américaines vers la Chine. Donc la réalité, c'est que les États-Unis n'ont pas grand-chose à vendre aux Chinois. Et c'est pas que les Chinois inondent le marché américain. La monnaie chinoise est plutôt forte. Voilà, depuis quelques jours, elle s'est dépréciée, mais c'est à cause du choc Huawei. Mais il n'y a pas d'utilisation par les Chinois de leur devise pour gagner des parts de marché. Et quand on regarde, on peut comparer le commerce entre les États-Unis, la Chine, l'Europe, le Japon. L'anomalie, à nouveau, c'est la faiblesse des ventes américaines. Et donc le problème du déficit extérieur des États-Unis, c'est un problème intérieur américain. C'est pas un problème du reste du monde.
Mais alors la presse américaine, y compris celle qui n'est pas du tout favorable à Donald Trump, a plutôt tendance à approuver cette guerre commerciale en disant qu'il faut rééquilibrer. Ils ont tort.
Ils ont tort. Le problème
des... si ça n'est pas rééquilibrable.
Il y a deux dossiers. Un, les Américains n'épargnent pas. Enfin, le taux d'épargne des Américains est extraordinairement bas. On peut calculer assez simplement que si les Américains, alors pas le taux d'épargne des Chinois qui est énorme, mais si les taux des Américains avaient le taux d'épargne des Européens, par exemple, il n'y aurait pas de problème de déficit extérieur
des
États-Unis.
Quel est ce taux d'épargne d'ailleurs, les ménages pour comparer les deux?
Alors il n'y a pas que les ménages. Les États-Unis, le taux d'épargne des ménages sur le calcul comme celui de la France, par exemple, aux États-Unis, il est entre 8 et 9 %. Nous, on est à 16, les Allemands à 18. Enfin, donc les Américains épargnent très peu. Hein, et vous savez, c'est un débat qui revient. C'est évidemment tout ça est très lié parce que la capacité pour les Américains de peu épargner vient du rôle international du dollar. Comme les Américains, depuis 30 ans, peuvent avoir tous les déficits qu'ils veulent, ils peuvent se permettre de ne pas épargner.
Si l'on vous suit, Patrick Artus, ce qui est aujourd'hui la crainte des États-Unis, c'est que l'entreprise qui jadis se contentait de produire un certain nombre de choses, qui était l'atelier du monde, la Chine, devienne exportatrice, non pas seulement de produits, mais aussi de valeur ajoutée, avec des marques, aujourd'hui des marques fortes. Pourquoi d'ailleurs, seulement dans le domaine des télécoms, et moins dans le domaine, par exemple, des voitures, on ne voit pas jusqu'à présent de déferlante des marques chinoises en matière automobile?
Oui, alors parce que les voitures traditionnelles chinoises d'abord passaient pas les crash tests internationaux. Faut se méfier maintenant parce que la Chine est très en avance dans la voiture électrique. Hein, les ventes de voitures électriques en Chine augmentent à toute allure. C'est plus de 10% des ventes et ça monte très très vite. Dans le monde entier, on est un peu en dessous de 5. En Europe, on est autour de 2. Et ils ont une avance technologique dans la voiture électrique. Simplement, ceci rentre aussi dans une organisation mondiale des productions qui est différente. Je crois que tout ce que nous discutons là rentre dans un phénomène beaucoup plus global et beaucoup plus important, qui est que ce soit par du protectionnisme affiché ou par du protectionnisme discret ou par des pressions des États, ou même parce que c'est plus rentable économiquement, on va organiser les productions beaucoup plus sur une base régionale. C'est-à-dire que ce qu'on appelait avant les chaînes de valeur globales, c'était j'éclate les productions dans tous les continents, je fabrique une voiture dans 30 endroits différents dans tous les continents, et puis je réassemble ça. Ceci, c'est le passé. C'est les années 90-2000, je crois qu'aujourd'hui...
Pourquoi le passé?
Parce que on défait ça. On est en train de rebasculer de chaînes de valeur globales à des chaînes de valeur régionales. À nouveau, une des raisons est une raison économique, c'est que les coûts de production en Chine, par exemple, maintenant, ne rendent plus tellement rentable d'aller produire en Chine. Donc il vaut mieux produire en Slovaquie qu'en Chine, si on est un Français. Et puis, dans beaucoup d'industries en tout cas...
Ce qui représente, du coup, un bouleversement très important.
Oui. Alors il y a d'autres pays que la Chine, bien sûr, il y a le Vietnam, il y aura l'Inde peut-être un jour. Et puis deuxième raison, c'est cette raison politique. C'est si vous voulez vendre un avion à un Indien ou à un Chinois, vous avez une contrainte de valeur ajoutée locale qui est de plus en plus forte au cours du temps. Et donc, on verra de moins en moins des grands flux intercontinentaux d'échanges de biens. Hein. Les choses s'organiseront sur une base régionale.
Est-ce que ça veut dire que c'est un coup de frein à la mondialisation, une autre mondialisation? Parce que à l'échelle régionale, ça reste quand même une mondialisation, puisque ça n'est pas seulement à l'échelle des marchés intérieurs que se déroulent les productions, Patrick Artus?
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les frontières. Il y a le fameux la route de la soie, one belt, one way, enfin appelons-le comme on veut, qui essaie de refabriquer autour de la Chine un très grand marché qui est pas seulement asiatique, hein, qui est asiatique, russe et européen. Alors c'est intéressant d'écouter dans vos informations avant la discussion sur la Russie. Il y a une question tout à fait centrale pour l'Europe et de savoir si dans cette région Europe qui s'organise, la Russie fait partie de la région Europe ou pas. Comment on travaille avec la Russie? Les Chinois ont évidemment décidé de se rapprocher des Russes. Hein, donc une des réactions de la Chine à la politique américaine, c'est de refabriquer une espèce de grande zone économique asiatique plus Russie et éventuellement avec les Européens qui veulent bien. On voit l'entrée des Chinois en Grèce, en Italie, au Portugal, etc., en Europe centrale, avec un morceau de l'Afrique. Et donc ceci pousse évidemment, en plus des facteurs économiques, à cette re-régionalisation des échanges. Et avec une question ouverte, c'est est-ce que l'Europe veut s'intégrer dans cette grande zone chinoise ou est-ce que l'Europe veut avoir une zone Europe? Est-ce que la Russie est dans cette zone Europe ou pas?
Où serait l'intérêt de l'Europe selon vous, Patrick Artus?
Je crois que l'intérêt de l'Europe, ça serait d'être assez grande pour qu'il y ait un jeu à trois, hein, États-Unis, Europe, Chine.
Mais on le voit par exemple pour le dossier des télécoms, alors ça n'est pas bien entendu l'unique produit qui est échangé à l'échelle mondiale, mais l'Europe est singulièrement absente de ce marché-là.
L'Europe a plein de problèmes pour peser. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant quand vous promenez en Asie ou aux États-Unis. Je trouve depuis quelques mois, avec une vitesse assez rapide, le déclin de la considération qu'ont les gens pour l'Europe. L'Europe est plus considérée comme une puissance par la plupart des gens que vous rencontrez sur le continent américain ou en Asie. Une des raisons, c'est celle que vous mentionnez, nous n'avons pas les grandes entreprises des industries du futur. Donc on n'a pas les géants des télécoms, de l'Internet, des batteries électriques, des cellules solaires, etc. Donc c'est un énorme handicap. Second problème, qui est, je dis des choses triviales, mais c'est qu'il n'y a pas de représentation politique de l'Europe. Et troisième problème, en réalité, l'euro n'existe pas. Il y a autant de dettes publiques que de pays. Donc si je veux acheter de l'euro, c'est un concept. Mais dans la vraie vie, je ne peux pas acheter de l'euro. Je peux acheter de la dette allemande, de la dette française, de la dette italienne, etc. Donc même cette monnaie n'existe pas en réalité.
Ça veut dire que pour, en tout cas, le premier point, le fait que l'on ne serait pas, nous les Européens, sur les marchés du futur, Patrick Artus, on serait en quelque sorte les perdants de la mondialisation, parce que ça veut dire qu'on s'est contenté d'acheter ces produits en les important. Mmh. On les avait au départ, Ericsson, Nokia,
etc. Produits,
et on les a perdus.
On les a encore, dans quelques cas, sur des plus petites entreprises. Hein. Oui, mais je crois que ça correspond aussi à quelque chose qu'on voit et qui est très débattu aux États-Unis. C'est que finalement, dans les 10 dernières années ou les 15 dernières années, on a fait une marche arrière incroyable dans la gestion des entreprises en acceptant les monopoles aux États-Unis. Donc l'antitrust, comme on dit aux États-Unis, aurait été disparu. Il y a énormément de débats, vous savez, aux États-Unis sur le retour de la concentration d'entreprises avec des positions dominantes. Et les Européens...
On l'a eu par exemple sur les GAFA, on l'a toujours.
Les GAFA, et puis maintenant, alors on le voit dans d'autres domaines avec l'Asie. Hein, la Chine a une espèce de position dominante énorme sur les terres rares, sur les batteries électriques, sur les cellules solaires. Et nous sommes restés, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, dans la position d'avant sur la concurrence. Donc nous avons refusé de fabriquer des monopoles, en disant c'est pas bien pour le consommateur européen. Les Américains et les Chinois sont revenus à l'idée qu'il fallait accepter des monopoles dans certaines technologies, puisque les entreprises avaient besoin d'être très grandes pour être efficaces, et l'Europe a rejeté cette approche. Donc on a aujourd'hui des... Alors, on a
mais
les inconvénients...
Pourtant, c'est pas du tout ce qu'on observe dans l'informatique, c'est-à-dire ce sont au contraire des entreprises qui n'avaient pas le monopole qui ont réussi à développer...
Oui, mais
développer...
on les a laissées devenir monopolistes. Google a 90% de parts de marché à peu près partout.
Je ne parlais pas des GAFAM, je parlais à un stade antérieur, puisque l'Europe est quasiment absente du marché de l'informatique, en tout cas sur le plan du matériel, c'est évident, sur le plan des logiciels, ça l'est malheureusement à peu près tout autant, et pourtant il y a eu de la concurrence à une époque aux États-Unis avant la construction de ce que vous appelez des monopoles.
Oui, mais je veux dire, il y a la fin des années 90, il y a cette espèce de bouillonnement, il y a plein d'entreprises qui se créent. Et à ce moment-là, je pense qu'on, explicitement ou implicitement, aux États-Unis, on abandonne l'idée qu'il faut garder de la concurrence sur certains marchés. Donc au lieu de fabriquer 5 Google qui auraient chacun 20% de part de marché, on accepte qu'il y en ait un seul. Donc il y a bien eu une époque créatrice où on fabriquait ces petites boîtes, mais ensuite l'antitrust a laissé ces entreprises devenir dominantes. Et c'est la même chose
quand vous
Chine.
Dites l'antitrust a laissé, ça veut dire qu'il y a une décision politique qui s'impose.
Alors la plupart des économistes américains qui travaillent sur cette question des positions dominantes disent que oui, alors c'est pas seulement une décision politique, c'est une espèce de philosophie différente des autorités de la concurrence.
Mais qui fixe la philosophie aux États-Unis?
Elle-même, c'est largement sous la pression des lobbies, enfin évidemment, il ne faut pas être naïf, mais aux États-Unis, ces évolutions des 15 dernières années, c'est assez intéressant d'ailleurs quand on réfléchit à la philosophie de l'économie, puisque la grande rupture américaine, c'est Reagan, donc c'est les années 80, on casse tous les monopoles, hein, dans l'énergie, dans les télécoms, etc. Ça génère un progrès colossal de casser les monopoles dans les années 80. Et puis aujourd'hui, on considère que les nouvelles technologies nécessitent de réinstaller des monopoles. Alors peut-être c'est faux. Peut-être que Google ou les GAFA vont devenir aussi... Alors il y a plein d'économistes américains qui disent que le déclin des États-Unis viendra de ces positions dominantes de gens qui ont maintenant intérêt à empêcher l'innovation autour d'eux, quoi, à tuer les concurrents avant qu'ils deviennent dangereux. Mais en tout cas, dans les 15 dernières années, les Chinois et les Américains ont fabriqué ces grandes boîtes extraordinairement rentables sur leur marché intérieur. Et qui, alors je ne parle pas d'Amazon, qui est un autre cas qui n'a jamais vraiment gagné d'argent. Mais regardez Google, Apple, Microsoft... Alibaba, Tencent, etc. Et ces boîtes, aujourd'hui, ont la capacité d'attaquer tous les marchés mondiaux basés sur une position de monopole, donc des rentes de monopole très élevées sur leur marché intérieur. Les Européens rejette absolument cela, hein, comme stratégie économique, en disant...
Ça veut dire qu'on est plus libéraux, selon vous,
On est plus libéraux que les Américains ou les Chinois, nettement plus, oui. On est resté dans la vision 80-90 de ce qu'il faut faire dans la concurrence.
C'est une information, effectivement. Si l'on vous suit, ça veut dire aussi que l'Europe aurait peut-être intérêt de se réveiller, par exemple, pour les GAFAM. Est-ce qu'on aurait la possibilité de demander, alors c'est un thème qui est régulièrement à la une de l'actualité, savoir si, par exemple, il faut démanteler des entreprises comme Facebook, voire comme Google?
Enfin, c'est pas les Européens qui le décideront, non. On peut imaginer, alors, c'est assez intéressant parce que finalement, il n'y a pas que dans la concurrence. La fin de cette espèce de parenthèse libérale, on en parlait avant, on le voit dans le commerce, hein, on le voit avec le FMI qui se met à dire que peut-être des contrôles des capitaux, c'est bien. Enfin, je veux dire, donc il y a une espèce de rejet international du néolibéralisme et l'Europe, à mon avis, est restée un peu en arrière dans cette évolution idéologique qui est globale.
Est-ce que cette critique de la mondialisation, parce qu'elle a souvent été faite au nom de la division internationale du travail qu'elle crée, aujourd'hui, est-ce qu'on y voit plus clair? Vous abordez d'ailleurs cette question, Patrick Artus, dans votre dernier livre, Discipliner la finance, paru chez Audit Jacob.
D'abord, je crois que ce qu'on voit dans les effets de la globalisation, et là je parle des biens, je ne parle pas de la finance, hein, est extraordinairement conforme à ce qu'on pouvait attendre. Hein, donc en réalité, il n'y a pas de surprise. Quand on a ouvert les échanges entre les pays émergents à salaire bas et les pays de l'OCDE à salaire élevé, on savait, un, que ça allait réduire la pauvreté mondiale, deux, que ça allait réduire la pauvreté et les inégalités dans les pays émergents, et trois, que ça allait augmenter les inégalités dans les pays de l'OCDE en détruisant un certain nombre d'emplois qui partaient dans les émergents. Et donc, ce qu'on a est exactement ce qu'on savait qui se produirait, en réalité. Alors, maintenant, la réaction peut être différente. Donc, les mondialistes globaux disent, mais attendez, cette mondialisation, elle a été extrêmement efficace, elle a divisé dans un facteur considérable les pauvres sur la planète. Hein, regardez la Chine, quoi. Bon, et puis les gens qui ont une vision locale des choses disent mais je perds mon industrie. Et donc on a ce conflit aujourd'hui entre les nationalistes qui voient évidemment ce qu'on savait, que quand vous ouvrez les échanges entre des riches et des pauvres, les emplois assez peu qualifiés des riches partent chez les pauvres, quoi. Je veux dire, on n'a rien eu de c'était une banalité terrible ce qui s'est produit, on le savait. Simplement, aujourd'hui, il y a un rejet total des effets chez les riches de ce que ça a produit.
Vous dites que c'est une banalité terrible, mais c'est pas l'unique chanson qu'on nous a chantée à l'époque. On nous disait aussi que le fait d'avoir, par exemple, un certain nombre de biens de consommation moins chers était une manière d'accroître notre pouvoir d'achat. Oui. C'était comme ça qu'on défendait la mondialisation à l'époque, Patrick.
Oui,
Artus.
Alors quand on fait les comptes aujourd'hui, on s'aperçoit qu'effectivement on a gagné en achetant des biens peu chers, mais que quand vous regardez, quantitativement vous regardez ce que ça représente, ces achats de biens peu chers ne compensent pas les pertes. Globalement, le monde se porte mieux avec la mondialisation, c'est tout à fait clair. Mais c'est évident qu'il y a un effet redistributif quand vous ouvrez les échanges, que les riches sont moins riches.
Et donc c'est nous qui avons perdu.
Nous avons perdu. Il faut admettre que la mondialisation, c'est un quand vous ouvrez les échanges entre des riches et des pauvres, les riches deviennent moins riches et les pauvres moins pauvres.
Et même plus précisément la classe moyenne.
Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a trois sortes d'emplois en fait. Il y a les emplois, je dirais, industriels au sens très large, ce qui inclut les services qualifiés. Il y a les emplois modérément qualifiés et il y a les services où il y a des emplois très peu qualifiés mais qui sont protégés. Donc ce qui s'en va, c'est le milieu. C'est la fameuse bipolarisation.
Avec ce départ donc vers les emplois de service qui sont des emplois...
Avec un petit peu vers le haut et beaucoup vers le bas. Donc cette fameuse bipolarisation où les emplois du milieu moyennement qualifiés disparaissent.
Patrick Artus, Discipliner la finance, votre livre publié chez Audit Jacob. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. On va notamment évoquer la situation de l'économie française et européenne et puis voir dans quelle mesure la perspective d'une autre crise avec la finance est encore toujours d'actualité. 8h sur France Culture, bon réveil à tous. On va immédiatement faire réagir notre invité, Patrick Artus, économiste, professeur associé à l'École d'économie de Paris et chef économiste de Natexis, lequel publie Discipliner la finance. Vous venez de dire, Frédéric, que la question n'était pas le retour du protectionnisme, mais quelle dose de protectionnisme. Votre réaction, Patrick Artus?
Oui, enfin, deux choses. Un, on en parlait tout à l'heure, le monde se réorganise autour d'une organisation régionale des productions. Donc sortir de l'organisation régionale n'a aucun sens. Donc le Brexit, le Frexit, le Nexit, enfin tous ces trucs-là, ça n'a aucun sens. On est forcément intégré dans une filière européenne de production.
Bah, le Brexit, ça a un sens.
Le Brexit, ça a aucun sens quand les Anglais sortent de l'Europe avec l'idée qu'on va recréer la prospérité du Royaume-Uni en commerçant avec le Commonwealth. Ça n'a plus aucun sens aujourd'hui.
Alors qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là ?
Ah bah, il va se passer que l'Angleterre va rentrer dans une période d'extrême difficulté, sauf si ce qu'appelle la Banque d'Angleterre appelle le Brexit géré. C'est un Brexit qui, en réalité, maintient la liberté complète des échanges avec l'Union européenne. Mais vous voyez, on ressort, on en parlait tout à l'heure, des chaînes de valeur mondiales.
Il faut rappeler.
Alors, chaîne de valeur, c'est je fabrique une voiture et elle est fabriquée dans 45 endroits différents. Enfin, j'invente le chiffre, mais enfin, il est très élevé, dans plein de continents. Aujourd'hui, on va fabriquer une voiture pour le consommateur européen, essentiellement en Europe. Et donc, croire que...
Donc, dans moins d'endroits.
Bah, moins en Chine, en Malaisie, au Mexique, et plus en Europe. Donc, ce qui inclut, bien entendu, l'Europe de l'Est, etc. Et donc, l'idée qu'on va, si on est britannique, remplacer l'intégration économique avec l'Europe par l'intégration économique avec l'Australie est une idée délirante. Donc, ça ne marche pas. Donc, déjà, il faut exclure les Brexit, Frexit, Nexit, enfin, tout ce qui sort tous les jours. Deuxième chose, sur le protectionnisme, les économistes disent qu'il y a certains types de protectionnisme qui ont du sens et pas d'autres. Ce que fait Trump, par exemple, qui est de taxer des produits qu'il ne fabrique pas aux États-Unis, c'est une forme de... Enfin, c'est délirant, parce que simplement, on l'a vu d'ailleurs, et c'est très clairement visible aux États-Unis depuis 2 ans, on continue... Les exportations de la Chine vers les États-Unis n'ont absolument pas baissé. Elles continuent à augmenter exactement dans la même proportion. Simplement, tout est plus cher pour les Américains. Donc ça, ça n'a aucun sens.
Il y a peut-être fait-il de la politique.
Oui, mais dans le même temps, ce qui est amusant, c'est que la seule chose qui s'est passée, c'est que les exportations des États-Unis vers la Chine se sont effondrées. Donc en fait, c'est les représailles chinoises qu'on voit dans les chiffres et pas les droits de douane américains, ce qui est quand même assez amusant. Mais où est-ce qu'on peut imaginer un protection? Enfin, c'est pas vraiment du protectionnisme. Vous l'avez dit, évidemment, si des pays refusent d'appliquer les accords climatiques, on peut mettre une taxe CO2 aux frontières de l'Union européenne. Ça, c'est parfaitement légitime, c'est parfaitement efficace, parce que ça nous permet, nous, de la avoir sans perdre notre compétitivité. Donc je pense qu'il y a une immense majorité des économistes. Et puis deux, et c'est un peu plus sophistiqué, et ça revient aussi à notre discussion sur les grandes entreprises, c'est le cas, alors j'explique après doucement, où il y a des rendements croissants. C'est-à-dire une entreprise est d'autant plus efficace qu'elle est grosse. C'est sans doute le cas dans beaucoup de nouvelles technologies. Si vous fabriquez des cellules solaires, il faut bien en fabriquer beaucoup, quoi. Vous étalez beaucoup. Et donc vous avez besoin... si c'est stratégique, de protéger votre marché intérieur pour donner le temps à vos entreprises de devenir grandes.
Mais d'un côté, Frédéric Saïs a parlé donc de ce protectionnisme qui est au cœur de la campagne, dit-il. D'un autre côté, tout à l'heure, vous évoquiez l'Europe finalement comme la zone la plus libérale du monde, beaucoup plus libérale que les États-Unis.
Je parlais plutôt des règles de la concurrence.
Oui, oui. Beaucoup
plus. L'ouverture, oui.
Oui, mais vous disiez tout à l'heure, Patrick Artus, que, par exemple, la lutte contre les monopoles était active en Europe, alors qu'elle était profondément
débranchée,
en sommeil.
Complètement débranchée aux États-Unis.
Aux États-Unis, oui. Ce qui est là aussi un indice du libéralisme, parce que ça permet aux États-Unis d'avoir des champions dans le domaine de l'informatique, alors qu'en Europe, on est singulièrement dépourvu.
Au détriment, probablement quand même, d'un certain nombre de choses dans l'économie américaine, puisque ces monopoles prélèvent des rentes de monopoles. Donc tout ce qu'ils vendent est trop cher. Donc il faut aussi voir l'autre côté de cette
attitude.
C'est
possible qu'ils aient des rentes de monopoles, mais aujourd'hui, le pays qui a le plus de croissance, le moins de chômage, ce sont les États-Unis. Si on compare cela par rapport à la zone euro, là, il n'y a pas véritablement de débat à avoir.
Oui, mais ce qui est démontré par toutes les études, c'est que le retour à des positions dominantes aux États-Unis détruit de la croissance aux États-Unis. Donc effectivement, les États-Unis ont plus de croissance que la zone euro, mais c'est pas grâce à ça.
Mais attendez, c'est vous qui avez dit que la politique économique de Trump était une bonne politique. Je crois même que vous l'avez qualifiée de géniale.
Oui, elle est géniale et cynique. Mais c'est un point qui est important. C'est que...
Le cynisme, ça fait partie de la politique.
Oui, mais Trump a compris qu'il n'y avait pas de concurrent pour le dollar comme monnaie de réserve. Donc le monde, comme l'euro n'existe pas et le renminbi ne peut pas être pour l'instant
la monnaie
internationale, la monnaie chinoise, le dollar, de toute façon, quoi qu'il arrive et quelles que soient les tensions politiques ou économiques, reste la monnaie de réserve. Et donc Trump a décidé de l'exploiter beaucoup plus que ses prédécesseurs. Et donc, il fait financer par le reste du monde un énorme déficit budgétaire des États-Unis qui permet de maintenir une croissance forte aux États-Unis, même quand on arrive au plein emploi, financé par le rôle du dollar.
Donc c'est une bonne politique, mais c'est une politique uniquement applicable aux États-Unis.
Alors, c'est pour l'instant, oui. Alors, on pourrait, pour que l'Europe... c'est assez intéressant parce que ça revient dans les débats. Il y avait un économiste belge, je crois, qui s'appelait Trifin, dont on reparle, qui a écrit Le paradoxe de Trifin. Il y a un truc tout à fait génial qui dit, voilà, vous êtes un pays solide, respectable et solvable, donc votre monnaie devient monnaie de réserve. Et votre monnaie de réserve, cette monnaie de réserve vous permet de vous endetter à des coûts très faibles, de faire très libre parce que le monde entier achète vos actifs financiers. Et du coup, vous perdez votre sérieux, vous vous endettez trop et à la fin, il y a une crise et vous perdez le statut de monnaie de réserve. Ce qui est arrivé à la livre sterling dans les années 1920-1930. Donc Trifin dit, bah, ça va se produire pour le dollar parce que les États-Unis utilisent tellement ce rôle de monnaie de réserve que, à la fin, on voudra plus leur prêter. Et sauf que, pour que ça se produise, faut qu'il y ait une monnaie de remplacement. Ce qui était le cas du dollar dans les années 20 et 30. Et là, il n'y a pas de monnaie de remplacement. Donc, Trump l'a compris. Et il l'utilise dans deux domaines. Un dont on a parlé, qui est donc la capacité à s'endetter à des taux d'intérêt très bas. Et l'autre, qui est l'extraterritorialité du droit. Hein, parce que je touche le dollar, donc ce sont les tribunaux américains qui s'occupent de moi. Et donc, l'Europe, à mon avis, devrait réfléchir aux avantages aussi que ça donne d'avoir une monnaie de réserve.
Et alors, ce discours sur le protectionnisme qu'évoquait Frédéric Saïs dans son billet politique avec des candidats qui aujourd'hui aux élections européennes en France semblent convertis au protectionnisme. Est-ce sincère? Est-ce purement du vocabulaire? Parce que de toute façon, ça n'est pas du tout ça qui se profilera à l'horizon européen. Qu'en pensez-vous, Patrick Artus, vous qui êtes économiste?
Non, mais je pense que, à nouveau, les économistes diraient qu'il y a certains, on peut pas appeler ça protectionnisme, qu'il y a un certain type de protection, je dirais plutôt, qui sont nécessaires. Je répète pas ce que j'ai dit avant. Et que c'est d'une grande naïveté, par exemple, si on veut avoir une taxation du CO2, de pas se protéger de ceux qui veulent pas l'avoir. Donc, dans certains cas, c'est même une obligation d'avoir cette forme de protection. Par contre, nous sommes dans un monde qui s'est profondément spécialisé. C'est-à-dire ce que certains pays produisent, les autres pays ne le produisent plus. Dans un monde qui s'est profondément spécialisé, en général, on ne peut pas taxer les produits qu'on importe parce qu'on ne les fabrique plus. Hein. Et donc c'est très différent du monde des années 80.
Frédéric Saïs. Pour rentrer dans le détail des propositions de l'ensemble des candidats, en réalité, il y a deux protectionnismes qui sont proposés pour ces élections européennes. En tout cas, il y a le protectionnisme carbone, c'est-à-dire avec une barrière douanière aux frontières de l'Union européenne en fonction de la pollution, évidemment, qu'ont provoqué l'importation de ces produits. Et puis, il y a un protectionnisme dit social qui, lui, serait davantage appuyé sur les droits des travailleurs, schématiquement, des pays dont proviennent ces importations. Comment jugez-vous cette différence et est-ce que les deux vous semblent réalistes, faciles à mettre en place?
Alors le premier, on en a parlé, il n'y a aucun problème. Enfin, je veux dire, si on veut avoir un prix du CO2 qui ressemble à quelque chose en Europe et qui devrait monter, par exemple, de 50 euros à 100 euros la tonne, comme plein de pays refuseront de l'avoir, il faut le faire. Le deuxième, non, parce que si vous voulez, nous importons en particulier parce que nous faisons fabriquer dans des pays où les coûts de production sont plus bas qu'ici. Et il est normal qu'à un stade de développement plus faible, la protection sociale soit plus faible. On n'avait pas la même protection sociale en France il y a 50 ans. Donc ça, on peut pas le faire. Et deuxième réponse à ça, notre problème de protection sociale et de concurrence, il est quand même beaucoup plus à l'intérieur de l'UE. Le problème, j'ai travaillé ça ces derniers jours en regardant les chiffres, un pays comme la France, par exemple, ou l'Italie, souffre beaucoup plus de la concurrence des autres pays de l'UE que de la concurrence du reste du monde. Donc notre problème n'est pas de nous protéger des droits sociaux faibles du reste du monde, notre problème c'est l'hétérogénéité des droits sociaux à l'intérieur de l'UE. Et donc ça, c'est pas un problème de protectionnisme.
Vous voulez dire la Bulgarie plutôt que le Bangladesh pour
C'est le sujet, c'est la Slovaquie, la Bulgarie, la Roumanie, etc. Et c'est pas la Chine, quoi.
Oui, mais ce que vous dites dans le même temps, Patrick Artus, dans votre dernier livre discipliné, La Finance, c'est qu'il y a un choix, alors un choix dans quelle mesure n'est-il pas subi de la France, avec donc un déplacement des emplois vers les services, et plutôt la portion la plus mal payée des services, une destruction de l'industrie française, elle est achevée, un non-remplacement de cette industrie par des emplois dans les secteurs de pointe, puisque on voit bien que malheureusement l'Europe et la France pèsent peu dans les télécoms, dans l'informatique. qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui, dans ce cas-là, nous sauver ou en tout cas nous permettre d'aller mieux?
Oui, mais on peut pas attribuer ça. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'évoque dans le livre avec toutes sortes d'études. Enfin, les destructions d'emplois industriels dues à la globalisation, l'estimation moyenne, c'est que c'est 20% des pertes d'emplois industriels. Et 80%, c'est donc autre chose. Dans le cas de la France, c'est une insuffisante modernisation des entreprises. On a moins de robots dans les entreprises industrielles françaises qu'en Espagne, en Italie, enfin, et je ne parle pas de l'Allemagne ou de la Suède ou du Japon. On a des compétences de la population active qui sont parmi les plus basses de l'OCDE.
Ça veut dire quoi?
Vous savez, il y a une enquête de l'OCDE qui est assez simple. Hein, on prend un échantillon de personnes dans tous les pays de l'OCDE et on leur demande, on vérifie qu'ils savent comprendre un texte écrit de quelques pages, qu'ils savent faire des opérations de maths relativement simples et qu'ils savent se débrouiller à peu près avec Internet. Les Français ne savent pas faire ça. Quoi. Je veux dire, donc on a un classement.
Ils ne savent pas faire quoi?
Ils ne savent pas faire une addition juste. Quoi. Il y a une règle de trois correcte ou lire une page et dire ce qu'il y avait dedans. Donc on a une notation parmi les plus calamiteuses de tous les pays de l'OCDE sur les compétences de la population. Il y a un lien colossal entre les compétences de la population et le poids de l'industrie, par exemple, dans les pays. Les pays qui ont gardé des emplois dont vous parliez, qui ont disparu en France, sont des pays où les compétences de la population sont élevées. Donc on ne peut pas attribuer à la globalisation ou à la naïveté de l'Europe des problèmes qui sont internes. C'est qu'on a des problèmes du système éducatif. À 18% de jeunes qui sortent sans qualification, sans formation, très peu employables. Le standard international, c'est 8-9. Nous, on est à 18, quoi. Donc tout ça, donc faut pas non plus, si vous voulez, transférer à des problèmes internationaux, ce qui sont des choses totalement domestiques. Les Allemands, les Hollandais, les Autrichiens, les Belges, les Suédois, etc., ont gardé des industries beaucoup plus grosses que nous et des emplois qualifiés beaucoup plus nombreux que nous. Donc voilà. Et donc il faut se dire que la protection vis-à-vis du reste du monde, ça doit être limité, il me semble, aux deux choses dont je parlais, c'est-à-dire le CO2. Peut-être d'ailleurs d'autres choses que le CO2, hein. Il y a la diversité, des animaux, etc. Et la biodiversité. Et puis ces entreprises très particulières qui ont besoin d'être grandes pour être efficaces et qu'il faut aider à devenir grandes sur le marché de l'UE.
Mais lesquelles en France?
Ah ben c'est celle dont on parlait. Si on veut un Google français, il y en a un, il s'appelle Quant, hein, mais il est petit. Si on veut un Google européen, il va peut-être falloir l'aider à devenir grand en Europe, quoi. Donc par exemple, si les ministères européens prenaient ce Google européen, ça l'aiderait à devenir plus gros. Et s'il était plus gros, il serait plus compétitif et ensuite il pourrait attaquer le vaste monde. Ce qui était la stratégie de toutes ces... Donc les entreprises qui ont besoin d'être grandes pour être efficaces, c'est quelque chose qui est très particulier.
8h34 sur France Culture. On continue d'évoquer la situation économique en votre compagnie, Patrick Artus. Vous publiez un ouvrage intitulé « Discipliner la finance ». Et il y a deux chiffres que vous donnez qui permettent de mesurer l'ampleur de la tâche. Si l'on souhaite discipliner la finance, vous dites que la finance mondiale pèse aujourd'hui 400 000 milliards de dollars, alors que le produit intérieur brut du monde est de 90 000 milliards de dollars, c'est-à-dire donc une somme inférieure à 25% de la finance mondiale. Alors il y a une somme, 400 000 milliards de dollars pour la finance qui est un stock, une fois pour toutes, et l'autre qui est un flux, ça veut dire que bon, chaque année, le monde produit 90 000 milliards de dollars de richesse. Alors, on peut discuter si c'est véritablement un système rationnel que de produire ces richesses, si à l'intérieur de ce PIB, il n'y a pas des problèmes de calcul. Mais enfin, ce que donne ce chiffre, outre le vertige, c'est d'abord la sensation qu'il y a une portion, la portion prépondérante de l'économie qui, aujourd'hui, ne sert pas véritablement l'économie réelle, Patrick Artus.
Alors, je ne sais pas si on peut dire ça me paraît un peu exagéré comme affirmation. La finance, c'est ce qui transforme l'épargne en investissement. Et si la taille de la finance augmente par rapport à la taille de l'épargne et d'investissement qui sont liés au produit intérieur brut, c'est que la technologie qui transforme l'épargne en investissement devient plus compliquée, plus grosse, plus difficile. Hein, c'est ça que ça veut dire. Et c'est vrai. Pourquoi? Parce que nous avons de plus en plus une épargne qui veut être sans risque et des investissements qui sont risqués. Et c'est aussi parce que nous avons des dettes publiques qui ont beaucoup augmenté. La dette publique, ça fabrique de façon inévitable et mécanique une augmentation de la taille de la finance, puisqu'il faut donner des dettes aux États. Donc nous avons cette croissance de la finance, mais il faut voir que la finance est une technologie. Vous voulez avoir un dépôt dans une banque dont vous êtes sûr qu'on vous rendra, et la banque, elle va financer des choses de plus en plus complexes dans l'investissement des entreprises, les start-up, etc. Et donc c'est compliqué, et donc ça devient de plus en plus gros. Ça devient de plus en plus gros aussi, parce que comme les politiques monétaires ont été ultra-expansionnistes depuis très longtemps, il y a une incitation à financer par la dette de plus en plus.
Mais alors attendez, parce que je vais vous poser une question naïve. En quoi la finance finance-t-elle l'économie réelle? Alors, on voit bien, par exemple, quand il y a une introduction de société en bourse, là, on voit, il y a une société qui va s'introduire en bourse, qui va donc acquérir de l'argent frais, les épargnants, les fonds d'investissement apportent de l'argent frais. S'il n'y a pas d'introduction en bourse, s'il n'y a pas d'émission de nouvelles obligations, les obligations, ce sont des dettes que contractent les sociétés. Bref, s'il n'y a pas de nouvelle émission, en quoi est-ce différent d'une sorte de casino fermé où finalement des actionnaires vendent des actions à d'autres actionnaires?
Il y a des cas différents. Si je prends la France, les entreprises sont financées essentiellement par le crédit bancaire. Donc la finance en France, c'est les banques, essentiellement, et les assureurs. Donc en gros, pour schématiser énormément, vous donnez une partie de votre épargne aux banques sous forme d'un dépôt et les banques font du crédit. Vous donnez une partie de votre épargne à votre assureur vie préféré et lui, il finance l'État français, pour faire simple. Donc voilà la finance en France, c'est des banques et des assureurs. Si vous allez dans les pays anglo-saxons, c'est plus compliqué parce que les marchés financiers sont beaucoup plus gros et donc vous allez acheter des actions qui ensuite financent les entreprises. Ce qu'on observe, c'est que partout dans le monde, les actions sont devenus ce casino dont vous parlez, puisque les entreprises ne se financent plus par action.
Mais ce qui est quand même important, parce que ce qu'on explique par exemple dans le débat sur l'ISF en France, c'est que c'est important que les riches investissent dans l'économie, parce que sinon l'économie se contracte. Mais alors, dites, vous Patrick Artus, vous n'êtes pas suspect de bolchevisme, si je me permets ce commentaire, si vous dites que
la bourse ne finance plus l'économie, et même aux États-Unis la bourse disparaît.
C'est pas une déclaration.
Comment finance-t-on?
Ça veut dire que finalement, cet argent qui est libéré avec l'ISF, il va pas dans la bourse.
Parce que, vous pouvez acheter des obligations des entreprises, et ce marché est très actif. Et deux, ce qui se développe partout dans le monde.
Mais pourquoi est-il très actif, le marché obligataire?
Parce que, à nouveau, je l'ai dit tout à l'heure, parce que comme les taux d'intérêt sont très bas, c'est beaucoup moins cher de se financer par de la dette que par des actions.
Alors là, il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer aux auditeurs. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont tels que une somme qui est placée ne rapporte quasiment rien. Il y a même des taux d'intérêt négatifs.
Oui, et donc aujourd'hui, si vous êtes, alors pas pour les entreprises, mais une entreprise de la zone euro en moyenne se finance à peu près 2% par an. Si elle émet des actions, ça va lui coûter beaucoup plus cher. Donc elle se finance par de la dette. Mais ce qui se développe aussi énormément, c'est ce qu'on appelle le non-coté. C'est-à-dire, c'est des financements. Par exemple, ce qu'on a, les fonds de private equity, c'est des fonds qui investissent dans les entreprises familiales. Donc, ce sont des actions, mais qui sont pas cotées en bourse. Et ça grandit de façon extrêmement rapide. En France, d'ailleurs, c'est assez peu connu. Le mode de financement essentiel des entreprises, ce sont ces actions non cotées. C'est-à-dire à la fois des fonds qui investissent dans le capital des entreprises et des familles qui mettent leur argent dans le capital de l'entreprise familiale. Voilà. Quel est le problème? Votre question, c'était de dire, d'abord, est-ce que la finance est trop grosse? Alors, il y a des bouts qui sont pas trop gros. On pourrait mettre plus d'argent dans le financement des nouvelles entreprises, des start-up. Et puis, qu'est-ce qui pose problème et qui pourrait être dangereux? Il y a l'endettement des Chinois, qui est énorme et qui est dû à cette espèce de cocotte minute. Vous avez énormément d'épargne en Chine et des contrôles des capitaux qui fait que cette épargne ne peut pas sortir de Chine. Donc forcément, cette épargne est prêtée à d'autres Chinois. Donc là, voilà. Deux, les dettes publiques, avec une question centrale qui est-ce qu'on a bien devant nous des taux d'intérêt bas très longtemps qui permettent d'avoir des dettes publiques élevées? C'est un débat central de l'économie aujourd'hui.
Mais aujourd'hui, les taux d'intérêt sont extrêmement bas et ils le sont a priori pour longtemps. En tout cas,
Sait-on.
En tout cas, long terme, ils sont bas.
Le sait-on. Les taux d'intérêt sont bas parce que l'inflation est basse. Et l'inflation est basse parce que les salaires augmentent pas. Donc il faut comprendre que c'est l'austérité salariale qui permet de faire des déficits publics. Ce qui est quand même pas très sympa comme idée. Mais que on va peut-être sortir de l'austérité salariale. Peut-être qu'on aura des gouvernements dans le futur qui décideront de faire d'autres politiques du marché du travail. Et donc, mais pour l'instant, l'inflation est basse, donc les taux d'intérêt sont bas, donc les dettes publiques continuent à augmenter. Et ce qui est une autre menace, le jour où peut-être les taux d'intérêt remonteront. Et puis le troisième sujet qui me paraît très important et dont on parle pas assez, c'est qu'on est en train de, depuis 10 ans, 15 ans, de déstabiliser totalement les économies des pays émergents avec des capitaux qui y vont, qui en sortent, qui y vont, qui en sortent.
Par exemple.
Par exemple, on achète des actions des pays émergents, puis on décide que c'est dangereux, donc on les revend. Donc les taux de change des émergents font le yo-yo, mais dans des proportions qui sont insupportables par l'économie. Vous voyez que le réal brésilien oscille entre 2 et 4 par dollar. Si votre monnaie double ou est divisée par 2, c'est dur de résister, quoi. Donc on est en train de tuer la croissance des émergents par ces allers-retours de capitaux. Parce que, et là on est à nouveau dans le néolibéralisme, depuis les années 80, on a décidé que les contrôles des capitaux c'était pas bien et qu'il fallait laisser les capitaux aller où ils voulaient aller. Et comme la finance est de plus en plus grosse, la taille de ces capitaux est devenue de plus en plus grosse aussi.
Mais attendez, parce que la finance, elle est aussi de plus en plus grosse quand on parlait par exemple des taux d'épargne importants en Europe. Vous disiez, alors plus ou moins 15% en fonction des pays, mais bon, on voit bien que les taux d'épargne, l'importance de la finance aussi c'est lié par exemple, non seulement aux incertitudes sur le futur que les ménages ont, mais aussi à la question des retraites. Et il y a une importance à cet égard. Bref, tout ce système, est-ce qu'il n'est pas vicié tout simplement parce que les individus, les personnes ont peur, elles ont raison d'avoir peur d'ailleurs, parce que dans le passé, eh bien, les crises économiques ont été particulièrement violentes, notamment la dernière en 2008. Est-ce que finalement, ce système, il ne devient pas visqueux tout simplement parce que les individus ont peur et qu'en l'état actuel des choses, ils n'ont aucune bonne raison d'être rassurés, Patrick Artus.
Oui, mais c'est pas, à nouveau, c'est pas la hausse de l'épargne qui a fabriqué la hausse de la finance. Le taux d'épargne du monde, il a un petit peu monté. Enfin, il est presque un peu, enfin, il est 2-3 points plus haut de ce qu'il était il y a 30 ans. Et la finance a pratiquement triplé de taille. Donc, c'est pas là, c'est pas, il y a une épargne de précaution et de peur. Vous avez raison. En Allemagne, c'est évident. Les Allemands épargnent comme des malades, les entreprises, l'État, les ménages allemands, les Chinois, probablement. Mais c'est pas ça qui explique la hausse de la taille de la finance. Ce qui explique la taille de la hausse de la finance, à nouveau, c'est cette très grande préférence pour la dette qui vient des taux d'intérêt bas et la complexité du processus de transformation de l'épargne en investissement. Mais c'est pas le fait qu'il y a beaucoup plus d'épargne, hein.
Est-il possible, alors, dans ces conditions, d'avoir une finance plus rationnelle ou en tout cas de poser des règles? C'est l'idée de votre dernier livre, Patrick Artus, pour que celles-ci ne reproduisent pas les erreurs du passé. Je parle d'un passé récent, je parle d'un passé de 2008, par exemple.
On a appris certaines choses. Hein. Par exemple, aujourd'hui, assez curieusement, dans l'esprit de beaucoup de personnes, finance égale banque. Les banques, c'est qu'un tout petit morceau de la finance. Et ce morceau est sans doute pas l'endroit d'où viendra la prochaine crise, hein, puisque ce morceau de la finance a été extrêmement régulé, géré. Ce qu'il faudrait faire, hein, s'il me semble, si on voulait avoir une finance plus stable, c'est 1, limiter la circulation internationale des capitaux qui sont strictement spéculatifs. Et c'est assez impressionnant de voir que le FMI, on parlait du consensus de Washington, qui était l'apôtre de la liberté de circulation des capitaux, est en train de devenir l'apôtre des contrôles des capitaux. Donc même le FMI se dit que on puisse acheter des actions des pays émergents pour les revendre 3 jours plus tard, c'est quelque chose qui est totalement déstabilisant. 2, il faut que les banques centrales, moi je suis très critique de ce que font les banques centrales, en particulier la BCE, maintenir des taux d'intérêt à 0, c'est quand même pousser au vice, c'est prendre énormément de risques d'instabilité. C'est en plus n'avoir aucun instrument monétaire pour réagir à une crise dans le futur. Donc je pense que ça, c'est très dangereux. Et troisièmement, mais ça a été fait, il faut réduire considérablement la taille de la finance trop compliquée. Mais la finance trop compliquée a énormément maigri depuis la crise. Tout ce qui est...
Qu'est-ce que c'est la finance trop compliquée sur les produits?
C'est ce qui a fait la crise des subprimes et de Lehman. C'est des produits qui sont bâtis, ce qu'on appelait des produits de titrisation, qui étaient bâtis à partir des crédits. Aux États-Unis, par exemple, la titrisation de crédit, qui était la source de la crise des subprimes et de Lehman, c'est 5 fois plus petit qu'avant la crise.
Hein. C'est pas seulement parce qu'elle était trop compliquée qu'elle a provoqué la crise. C'est aussi parce qu'elle était trop malhonnête.
C'était
c'est-à-dire
trop gros.
On vendait des produits présentés comme sûrs qui étaient en réalité des produits extrêmement risqués.
Et avec une absolue méconnaissance de la réalité du risque qui était derrière. Et ça c'est très, très, très différent. Enfin, les choses sont très différentes aujourd'hui. Voilà. Et puis, donc les banques centrales. Et puis, il faudrait... Il y a le sujet américain. Je pense qu'on a, on en parlait tout à l'heure, le cynisme des États-Unis fabrique de l'instabilité financière. Et en plus, ça a un effet qui est absolument dramatique pour l'économie mondiale, c'est que l'épargne des pays pauvres part financer les déficits publics des États-Unis.
Ah oui, c'est-à-dire que c'est un système où les pauvres financent les riches.
Les pauvres financent les États-Unis. Alors pas tous les riches, parce que les Européens ne s'endettent pas auprès des pays pauvres. Et les pays mondiaux pauvres financent les États-Unis, ce qui évidemment détruit de la croissance mondiale, hein, puisqu'il faudrait que ça soit dans l'autre sens que ça. Et ça, c'est une perversité terrible de notre système, parce que comme la monnaie de réserve mondiale, c'est la monnaie du pays le plus riche, assez naturellement, c'est ce pays qui attire l'épargne du monde. Donc l'épargne du monde est pompée vers le pays le plus riche, qui est quelque chose qui est absolument dramatique pour la croissance du monde.
Et donc ça, par exemple, qu'est-ce que l'on peut y faire, puisque manifestement Donald Trump ne fera rien dans ce domaine
De la concurrence entre les monnaies. Donc il faudrait que les Européens, par exemple, arrivent à avoir ce que beaucoup de gens souhaitent, une dette de la zone euro, qui ne soit pas la dette de l'Allemagne, de la France, que la dette de la zone euro. La dette de la zone euro, il y aurait une énorme demande mondiale pour une dette de la zone euro, l'euro existerait vraiment, et les États-Unis seraient confrontés à une monnaie concurrente qui les forcerait à être plus vertueux.
Mais tant que l'Allemagne sera l'Allemagne, cette position ne sera pas retenue.
Non, ceci, oui, là je rêve, effectivement, ceci ne se produira pas pendant années.
Donc, voilà. Alors donc, si ça ne se produira pas, qu'est-ce que l'on peut imaginer à court terme? Parce que finalement, votre vision, Patrick Artus, dans Discipliner la finance, à la fois vous dites que ce système marche sur les mains, ça tout le monde s'en est rendu compte, et vous dites aussi que y a peu de raisons que l'on puisse le faire marcher sur.
Non, il y a des choses qui se font. Que les banques centrales reviennent à une attitude plus raisonnable. Enfin, on n'a pas besoin de taux d'intérêt nul tout le temps, quoi. Je veux dire, personne ne peut soutenir cette thèse raisonnablement. On arrête les capitaux spéculatifs vers les pays émergents. Enfin, ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi. Enfin, donc, il me semble qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut avancer. Le plus compliqué, effectivement, c'est d'avancer sur l'organisation du système monétaire international. Parce que on a ce monopole des États-Unis que les États-Unis n'ont pas envie de rendre pour des raisons évidentes. Hein. Mais il y a quand même plein de choses qu'on peut faire. Et on n'a pas le temps de parler de tout. Mais par exemple, les questions de liquidité qui sont dramatiques. Les crises de la finance, c'est des crises d'illiquidité. Hein. Et donc, il faut aussi travailler.
Une crise d'illiquidité, c'est typiquement en 2008, lorsque des ménages insolvables se retrouvent dans l'incapacité de vendre leur maison, voilà, parce qu'elles ne sont pas suffisamment liquides, elles ne sont pas vendables.
Mais c'est pire quand vous avez des grands fonds d'investissement qui tout d'un coup sont soumis à des retraits de leurs clients et qui ont acheté des actifs qu'ils ne peuvent pas vendre. Donc évidemment, il faut aussi limiter les positions d'illiquidité. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire hein, quand même pour rendre la finance moins dangereuse.
Merci beaucoup Patrick Artus de nous avoir exposé votre vision du monde et notamment en ce moment d'élection européenne. Discipliner la finance, c'est donc votre livre. Il est publié chez Odile Jacob.